France Inter.
Ce soir, nous avons la chance de recevoir James Gray. Nous évoquerons bien sûr son cinéma et nous parlerons de son nouveau rôle de metteur en scène d'opéra puisqu'il s'apprête à monter Mozart au Théâtre des Champs-Élysées. Mais comme chaque soir, on commence en musique et ce sera avec Blondie.
Thank you.
Quelle langue parlait-on dans votre famille quand vous étiez petit, James Gray?
La plupart du temps, c'était l'anglais, un peu de russe et puis du yiddish. Mes grands-parents parlaient le yiddish. Ma mère et mon père ne parlaient que l'anglais. Et mon frère et moi avons refusé d'apprendre toute autre langue.
Pourquoi ?
La réponse la plus simple et la plus véridique, c'est que quand on est jeune, on est idiot. Et on se fiche des autres mondes, des autres cultures autres que votre, celle de votre histoire personnelle. Et l'idée, c'est toujours de se conformer. Et on se conformera pas si on parle le yiddish ou le russe. Donc, il valait mieux apprendre l'argot anglais de New York.
Que vous ont transmis vos grands-parents, James Gray?
J'ai eu deux expériences avec mes grands-parents. Du côté de ma mère, c'était une classe différente de celle de la classe de mon père. Côté mère, c'était un peu plus éduqué, classe moyenne. Et ma grand-mère, qui était une sorte d'impératrice douairière, avait vraiment un grand goût pour l'art. Et elle m'a fait connaître beaucoup de grands peintres. Et l'autre côté de la famille, côté de mon père, m'ont donné quelque chose de totalement différent. Mon grand-père était plombier à Brooklyn, n'a pas dit un seul mot d'anglais jusqu'au jour où il est mort. Ils m'ont donné un sentiment de l'histoire familiale, de façon très claire. Du côté de ma mère, ils tentaient d'oublier l'ancien monde.
Aujourd'hui, vous vous sentez juif américain ou américain tout court ?
Ah, simplement américain, sans l'ombre d'un doute. Je ne suis pas quelqu'un de religieux. Je ne pratique pas. J'ai jamais pratiqué aucune religion. Peut-être quand j'aurai 80 ans, je regretterai peut-être. Mais non, moi je suis américain 100%.
Américain 100%, James Gray, et pourtant, votre premier film, Little Odessa, mais aussi bien d'autres films signés de vous, attestent que vous puisez dans l'imaginaire de votre propre généalogie familiale pour pouvoir en faire des récits par des images.
C'est certainement le cas, mais c'est pas une tradition non-américaine. Qu'est-ce que ça signifie être américain de toute façon ? Je suppose que les seuls qui peuvent se dire totalement 100% américains, c'est les populations indigènes qui ont été plus ou moins détruites par les Espagnols, les Portugais et les Anglais. Quand je dis que je suis américain, ce que je veux dire, c'est que je viens des traditions du pays telles qu'il est aujourd'hui. Et ça implique des narrations, ça implique l'enquête sur son propre héritage. Parce que c'est pas du tout un melting pot, ce pays. C'est pas un creuset. C'est une collection de centaines de cultures et de langues. De cette manière, donc, moi, je suis américain.
Je vous propose d'écouter la voix de Philip Roth à propos de ses origines familiales. Je crois savoir que vous avez vécu dans la même banlieue que Philip Roth et que vous avez des accointances artistiques. On l'écoute, c'est une archivina du 16 octobre 1999.
Ma mère est née en 1904 à Elizabeth, d'une famille d'immigrants juifs. Elle a grandi au milieu de catholiques irlandais. Mon père est né à Newark. Mes parents ne parlaient jamais du passé et ils ne nous racontaient aucun souvenir. Ils ne rêvaient que d'une vie à l'américaine. Il n'y avait donc aucune nostalgie pour le pays de leur origine. On n'en parlait pas. Je n'ai jamais entendu le moindre mot sur ce sujet. J'aurais pu en parler avec mes grands-parents, mais ils ne parlaient que yiddish et je ne parlais qu'anglais. Mon frère est né le premier en 1927, ma mère n'avait que 23 ans et je suis né en 1933, quand elle en avait 28. Elle n'a jamais fumé ni bu la moindre goutte d'alcool. Elle avait une énergie incroyable, une volonté incroyable. Vous connaissez ce mot de Freud, celui qui est aimé par sa mère sera un conquistador.
Ça vous fait sourire, hein, James Gray, d'entendre la voix de Philip Roth qui parle du même territoire. Territoire imaginaire, territoire linguistique, territoire géographique. Il y a aussi Spiegelman avec Maus. Bref, vous appartenez à une communauté qui a pu déployer son imaginaire. Vous, ça a été le cinéma. La chute de Philip Roth est extrêmement incroyable et bouleversante. Il vient de dire... Qui a aimé, été aimé par sa mère aura un tempérament de conquistador. Je veux pas tout rabattre par des procédés semi-psychanalytiques, sous-psychanalytiques, mais quand on voit certains de vos films, et on va revenir au premier film de votre cinématographie, James Gray, on peut dire que le personnage de la mère est omnipuissant et que c'est peut-être une des raisons pour laquelle vous avez fait du cinéma. C'est pour parler des mères. Et peut-être indirectement de votre mère.
Well, I suppose that's true. It's
je suppose que c'est vrai, mais c'est plus clair pour vous que pour moi. Vous savez, franchement, j'y réfléchis pas en ces termes-là. C'est intéressant d'écouter l'extrait de Philip Roth, parce que ce qu'il dit me rappelle ma propre expérience. Mais assez différent toutefois. Lui, c'est un gamin de Newark, dans le New Jersey. New York, c'est assez surprenant, mais c'est différent du New Jersey, sur le plan culturel. Et mes grands-parents, spécialement le père de mon père, avait beaucoup de nostalgie pour son ancien pays. J'ai jamais vraiment compris pourquoi, mais il essayait, en mettant ensemble des mots anglais autant que faire se peut, il disait à quel point ça lui manquait la Russie, la vie en Russie. Je ne sais pas à quel point et pourquoi ça lui manquait, parce que ses parents avaient été assassinés par les Cosaques, mais il avait un attachement sentimental pour ce pays. Et il a eu une certaine mélancolie tout au long de sa vie aux États-Unis. Et d'une certaine manière, les choses ne se sont pas faites comme il l'aurait souhaité. Je crois que c'était une approche beaucoup plus nuancée à celle qu'ont eu les immigrants aux États-Unis. C'était un cliché. C'était pas la question de Philip Roth, mais dans beaucoup d'œuvres d'art aux États-Unis, il disait ça. Je suis venu aux États-Unis et la vie était superbe. Mais pour la plupart, c'était un choc culturel. Et c'est ça qui m'intéressait à explorer. Et si ma mère joue un rôle important là-dedans, je suis sûr que vous avez raison. Mais moi, je parlais des relations qui signifiaient beaucoup pour moi à l'époque.
Vous l'avez dit tout à l'heure, vous alliez dans les musées, notamment avec vos grands-parents. Or, votre art cinématographique emprunte beaucoup, à la fois par le cadrage et par le hors-champ et par la précision des matières et des couleurs dans plusieurs de vos films, à la peinture qu'on peut voir dans les musées. Je pense particulièrement au Caravage, pour certains de vos films, James Gray, et je pense aussi dans certains autres de vos films à Edward Hopper. Comment une image de cinéma peut-elle être alimentée artistiquement par une vision profonde de la contemplation d'un tableau?
What a great question.
Quelle superbe question.
I guess I would answer it in the only honest way I could answer that.
Eh bien, la façon la plus honnête de répondre à votre question, c'est que je ne sais pas. Parce qu'il est absolument impossible, il est carrément, quasiment impossible de mettre en mots les réactions lorsqu'on regarde une œuvre d'art, mais principalement un tableau, parce que c'est une expérience non verbale. Je peux vous dire que une des choses, enfin, beaucoup de choses dans ma vie, c'est de la chance. Et j'ai eu beaucoup de chance de grandir à New York à cette époque-là. Et j'ai passé du temps dans les musées. Donc, j'ai regardé les œuvres d'artistes que j'aime. Et deux grandes expositions qui véritablement ont changé ma vie. Il y a eu une rétrospective de Picasso au MoMA en 79, et véritablement, qui m'a véritablement étonné. J'avais 10 ans, je ne savais pas ce que ça voulait dire, je ne savais rien de Franco et tout ça, mais ça m'a frappé. Et un an plus tard, il y a eu une rétrospective d'Edward Hopper au Whitney Museum of American Art. Et je sais que c'est un cliché, mais Lorsqu'on regarde un tableau qui est légendaire et que vous le voyez pour de vrai, ça explose de vitalité d'une façon qui ne peut pas être reproduite par aucun livre. Et je me souviens de regarder Night Hawks, qui est un des tableaux les plus célèbres de Hopper. C'est un couple solitaire dans un petit restaurant au milieu de la nuit. Et impossible de raconter l'émotion que j'ai ressentie. Ça semblait jaillir du cadre. Et le Caravage est arrivé un petit peu plus tard, mais pas beaucoup plus tard. C'était au Metropolitan Museum. J'y suis allé deux ou trois ans plus tard pour la première fois. Ce qui vous frappe, il faut essayer de maîtriser vos réactions émotionnelles. Il n'y a pas, il n'y avait pas un récit, une narration. J'étais pas en train de regarder le tableau avec ses écouteurs ou quelqu'un vous explique ce que signifie le tableau. Mais j'étais contraint en tant que garçon de 10 ans ou de 11 ans d'affronter directement ce que l'œuvre me disait. Directement. Et toutes ces choses, la couleur, la composition, la façon dont la lumière se reflète sur un coin de bâtiment, spécialement chez Hopper, c'est de l'art et c'est de la réaction émotionnelle. Et vous avez raison, ça m'a profondément affecté et pendant des années j'ai rêvé d'être peintre.
Pourquoi vous, qui n'étiez pas d'un milieu artistique, ni d'un milieu intellectuel, pourquoi et comment aujourd'hui, avec le recul du temps, pourquoi êtes-vous devenu cinéaste?
God, I don't know. It's so strange.
Mon Dieu, je ne sais pas. C'est tellement bizarre.
Sometimes in life,
parfois dans la vie,
saved by very strange circumstances.
On est sauvé par des circonstances étranges.
The first movie I saw that really
le premier film que j'ai vu qui a eu beaucoup d'intérêt sur moi, c'était Apocalypse Now. Et après, j'ai vu Raging Bull.
And I had seen also the French Connection on television.
J'avais vu aussi la French Connection à la télé.
Which seemed to conjure a New York that I did recognize.
C'était vraiment extraordinaire. C'était une vision de New York que je connaissais comme une grande poubelle. C'était pas la vision de New York comme dans Breakfast, petit déjeuner à Tiffany.
Et
j'ai décidé de devenir cinéaste. Mes parents m'ont regardé comme si je leur avais dit « je veux devenir astronaute ». C'était totalement surréaliste. J'avais l'amour de la peinture du côté de ma grand-mère et l'amour du cinéma, je ne sais pas d'où c'est venu. J'aimerais bien pouvoir dire que c'est venu à tel et tel moment, mais non, c'était une question de chance. C'était grandir à New York, lorsqu'il y avait beaucoup de cinéma, d'art et d'essai qui vous montraient des tas de films, avec quelque chose qui était dans l'air du temps.
De la chance et peut-être aussi un certain talent ou un talent certain, James Gray, parce que vous avez inventé un art cinématographique très particulier, empruntant peut-être au genre mélodrame. Je ne sais pas d'ailleurs si ce mot va vous faire sauter de colère. Non, ça n'a pas l'air. Mais en tout cas, moi j'assimile vos films au mélodrame dans la mesure où ils nous captivent, où ils nous font suspendre le temps et ils nous font éprouver l'acmé de nos sentiments. Et donc, ils travaillent l'intérieur de nous-mêmes. Comment avez-vous trouvé ce style? Parce que il s'est imposé dès votre premier film, Little Odessa. Et puis ensuite, ce type de narration s'est déployé dans tous vos autres films. J'accepterai peut-être le dernier dont on reparlera tout à l'heure, Ad Astra. Comment est venu ce désir de faire un cinéma émotionnel, narratif, romantique et sentimental?
It's a very difficult question.
Oh, c'est des questions extrêmement difficiles.
Well, you know why? Because it's demanding a level of
parce que ça exige un niveau d'introspection.
And if I could answer them clearly and
si je peux
quickly,
répondre rapidement et intelligemment, alors je crois que vous allez me haïr jusqu'à mon tréfonds. Parce que je passe tellement de temps à m'analyser. J'étais tellement narcissique. Vous savez, déjà, faire des films, c'est une entreprise narcissique.
Et
il faut s'oublier, finalement, lorsqu'on fait le film soi-même. Je pense
que
les films qui étaient importants pour moi, c'est quelque chose qui parlait à quelque chose de mon moi, sur le plan émotionnel,
ce
que signifie être un être humain, quelle lutte cela représente, que ça a été et que cela sera toujours. Ça semble être un miroir de ma propre vie, de mon enfance, l'état d'esprit de ma maison, mes parents, mes grands-parents, comment mon frère était avec moi, comment j'étais avec lui. Et je voulais faire une œuvre qui signifiait où j'étais dans le monde, parce que j'ai pensé que le rêve de réaliser quelque chose aussi personnel que possible, qui soit la traduction directe, la plus directe de mes impressions les plus intimes, et toute autre chose devait être par surcroît.
Vous
savez, plus j'avance en âge, je ne sais pas si c'est juste, mais je pense que l'histoire et le mythe commencent toujours dans le microcosme de l'individu. Et ça débute là.
Et
le côté émotionnel, si j'ai la chance de pouvoir le réussir, c'est l'appel de l'art. C'est pour cela qu'il est là. C'est ma forme de religion. C'est comme cela qu'on peut surmonter ce qui ne va pas dans le monde. C'est difficile à faire dans le contexte où le marché est tout. C'est difficile de le faire dans un contexte des médias commerciaux. Faire un film, ça coûte énormément d'argent. Donc c'est une grande bagarre. Mais dans les autres formes artistiques, c'est pas une guerre aussi importante. On peut écrire un bouquin sans argent quasiment. On peut faire un tableau pour 60-70 euros. Et là, il y a de l'expression personnelle. Au cinéma, c'est plus rare, mais c'est la tradition culturelle de laquelle je viens.
Alors, vous êtes devenu cinéaste, James Gray. Vous dites que vous faites partie d'un mouvement et que vous avez été autorisé à réaliser vos rêves et à rentrer en production pour faire vos films de manière indépendante. Ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des moments de découragement, il y a eu des moments d'écriture qui n'ont pas porté leurs fruits. Et puis, vous avez rencontré sur votre chemin un individu dont on a beaucoup parlé depuis 2 ans, qui s'appelle Harvey Weinstein. Il vous a pas tellement facilité l'éclosion artistique de votre propre cinématographie, si j'ai bien compris.
C'est pas simplement Harvey. On parle d'une industrie qui n'a aucun intérêt dans ce que j'essaie de faire. Oublions ce que je fais. Ils n'ont aucun intérêt dans ou une ambition. Aux États-Unis, le cinéma
a
évolué comme un médium populaire. C'est pas respecté en tant que forme artistique. Ça l'est par un petit groupe, mais en général, on entend des critiques qui disent j'ai 7,8 ou j'ai 8 étoiles sur mon petit ballon, il y a 10 pop-corn sur mon échelle de pop-corn. C'est ce genre de critique. J'ai horreur de ça, avec les étoiles qu'on donne à des films. On le ferait jamais avec aucune autre forme d'art. Écoutez,
Thomas Gainsborough's Blue Boy gets only 3.5.
Gainsborough, il a 5.5 sur mon échelle de 7. Mais tout le monde rigolerait si on disait ça d'une peinture, d'un tableau. Le cinéma, et particulièrement aux États-Unis, n'a jamais été quelque chose qui ait été traité comme une forme artistique respectable. Vous savez, c'est comme un jukebox, hein, on met une pièce et puis on regarde un film. Je me suis battu avec Harvey. Bien sûr, je me suis battu avec Harvey. Je me suis battu avec beaucoup d'autres et d'ordinaire, je perdais. Mais je pense que la bataille en vaut la peine. Si on se bagarre pas, alors quoi? On fait partie du système? Ben, je pourrais être aussi un banquier dans une banque d'investissement et gagner de l'argent. Mais c'est pas comme ça. C'est pas ça mon rêve.
Votre art de la narration, James Gray, s'appuie sur le suspense. C'est une vieille ficelle de l'art cinématographique. mais vous la maniez avec beaucoup de délicatesse et de rebond. Je vous propose d'écouter Alfred Hitchcock, justement à propos du suspense dans ses films. C'était au micro de Jacques Chancel et c'est une archivina du 18 janvier 1971.
J'ai eu terriblement peur.
This is another thing about the suspense film that I make.
Ça, c'est une chose spéciale en ce qui concerne les films à suspense qu'il fait.
It is similar to a person who goes on, what is the roller coaster? What do you call that?
Montagne russe.
Huh?
Montagne russe.
While they are on it, they are screaming.
Yes. Il dit que c'est exactement la même chose comme celui qui va sur la montagne russe et qui pousse des cris tout le temps. Pourquoi y vont-ils?
But when they get off, they are giggling.
Mais et quand ils descendent de leur montagne russe, ils rient aux éclats.
It's the same if they are in a fair, they go in the haunted house.
Et quand ils vont à la foire, ils vont dans les maisons hantées.
Where the floor goes like that.
Où les parquets bougent.
Skeletons come out.
Et les squelettes sortent.
But they always come out giggling.
Et ils en sortent toujours très contents et riant aux éclats.
Êtes-vous l'arrière-petit-fils de Alfred James Gray?
Non, c'est un plus grand réalisateur que je ne serai jamais. Ce type, il est tellement haut dans mon estime.
I remember actually a very formative experience.
Une expérience.
Rear Window, Vertigo, Rope, Trouble with Harry.
Dans tous ces films de Hitchcock,
Fenêtre sur cours, out of circulation in the United States for some time.
Tous ces films n'étaient plus diffusés, n'étaient plus projetés aux États-Unis pendant un certain temps. 1983, ils ont finalement été reprojetés.
And to see Rear Window
et
and
de voir Fenêtre sur cours. Et Vertigo, ils sont tous extraordinaires, mais spécialement Vertigo. Ça a changé ma vie. Je l'ai pas aimé du tout quand je l'ai vu pour la première fois. C'était très déplaisant. J'étais découragé par la prestation de James Stewart. C'était une façon très fétichiste. Mais j'ai pas pu l'oublier. Je suis retourné le voir cette même semaine deux, trois fois. J'ai traîné mon frère qui a, franchement, il abhorrait ça. J'ai payé pour son billet de cinéma. Il voulait pas y aller. Mais je suis tombé amoureux de Kim Novak. Je suis tombé amoureux du film. Et on parle de quelqu'un qui pouvait faire un film en utilisant ce truc que vous appelez suspense. Et il y a un grand terme, c'est onirique. Parce que les rêves ont du suspense. Parfois, on se réveille en sursaut, comme si vous étiez en train de tomber de la falaise, et on se réveille. Ah, et puis vraiment, quel réconfort. On a côtoyé la mort. Et le cinéma a son meilleur, c'est comme un rêve. C'est beau, c'est horrible, c'est un rêve. Et c'est pour ça, lorsque vous êtes dans un cinéma, quelqu'un est derrière vous et parle, et qui est en train de mâcher ou qui fait du bruit avec son sachet de pop-corn, eh ben ça vous met en rage, parce que c'est une violation, un viol de cette identification que vous avez avec le rêve qui se déroule sur l'écran. Le suspense, l'engagement émotionnel en tant qu'individu, tout ça va vers le même endroit, tenter de trouver une façon de reproduire un rêve.
Vous
ne pensez pas que ce soit ça, la vérité? C'est la chose la plus proche que nous ayons pour atteindre la conscience de quelqu'un d'autre. Regardez Vertigo, c'est son rêve. On peut regarder à l'intérieur de son esprit.
Thank you.
Nous venons d'entendre le fameux air de Chérubin, chanté par Federica von Stande, dirigé par George Solti. C'est une bonne nouvelle pour nous, James Gray, nous qui aimons tant votre cinématographie, que de savoir que, après nous avoir fait participer à un duel métaphysique entre un fils et son père, bien au-delà de notre monde terrestre, vous allez vous retrouver au XVIIIe siècle, corseté par le livret de Da Ponte dans la musique de Mozart et notamment dans ses Noces de Figaro. Quelle serait votre définition de la beauté aujourd'hui?
These are the most amazing, difficult questions.
Ce sont les questions les plus extraordinairement difficiles qui m'aient jamais été posées.
That's one of the most complex terms.
C'est un des termes les plus compliqués dans n'importe quelle langue. C'est mal perçu d'ordinaire, à la place de joli. Mais la beauté, c'est une explication de la réaction que l'on a lorsqu'on reconnaît quelque chose de profondément humain, de généreux et rempli d'amour. C'est un terme qui englobe tellement de choses.
On
le sait quand on le voit, mais on ne peut pas décrire ce que c'est.
Mais ce qu'on vient d'entendre, c'est beau, par exemple.
Ce qui est intéressant au sujet de la beauté, c'est que la beauté est intimement liée à notre mortalité, parce que c'est éphémère. Et elle doit être éphémère pour être puissante.
Elle
doit avoir de la mélancolie aussi. Parce que c'est un infini inatteignable qui est juste sous-jacent au plaisir. Je vais vous donner un exemple de ce que je veux dire, si je peux. J'aime Gene Kelly. Il est superbe, il est grand.
J'emmenais mes enfants.
Mes enfants adorent Chantons sous la pluie. Je les ai emmenés voir un Américain à Paris. Ils ont adoré ça aussi. Mais, Fred Astaire est mieux. Et pourquoi? Gene Kelly, on le voit travailler. C'est un acrobate. Fred Astaire.
Nobody can move like Fred Astaire.
Personne ne peut bouger comme Fred Astaire. Il y a une mélancolie attachée à Fred Astaire. Parce que c'est quelque chose d'inatteignable comme perfection. Même Fred Astaire n'a pas réussi à le faire du premier coup. Il y avait beaucoup de prises. Vous savez, dans cette scène où on le voit marcher au plafond, il n'a pas vraiment marché au plafond. Et en regardant ces merveilleux films musicaux en noir et blanc, c'est la perfection inatteignable de la beauté.
Donc,
je ne sais pas. Il y a un aspect mélancolique qui s'y rattache.
Vous êtes devenu metteur en scène d'opéra, et pas avec n'importe quel opéra, puisqu'il s'agit des Noces et de Mozart. Généralement, les différentes mises en scène sont réalistes, illustratives. Vous avez décidé de vous affranchir de certains codes pour nous faire parvenir, justement, peut-être, à l'écoute de la beauté.
Je ne sais absolument pas quelles seront les réactions du public. Il y a une certaine dose d'hostilité envers les réalisateurs de cinéma qui approchent l'opéra avec l'idée qu'ils sont, eux, plus importants que Da Ponte, Mozart ou Beaumarchais. Moi, mon idée, c'est de respecter autant que faire se peut ce matériau. Pas en raison de notions conservatrices de rendre hommage à leur mémoire ou Dieu sait quoi. Atteindre quelque chose de valeur avec Mozart. Je pense que c'est essentiel d'honorer la multitude, la merveilleuse multitude d'émotions qui sont contenues dans cette œuvre. Le conte est horrible. Il est aussi ridicule et drôle.
Suzanne,
elle est aussi victime d'un monde, d'un ordre du monde.
But the Countess lives a terrible life.
La comtesse est drôle, mais elle vit une vie horrible.
So these complexities inherent in the work.
Donc ces complications sont inhérentes à l'œuvre. Elles sont là, il faut en prendre compte. Moi, j'ai pas besoin de mettre mon propre sceau dessus.
Et
j'essaye de m'effacer et de plonger dans ce que eux voulaient faire et de mettre l'accent sur l'intention. C'est-à-dire ce que je suis en train de faire, l'intention pour les interprètes, les chanteurs, qu'ils deviennent acteurs, de leur apporter pour eux, pour qu'ils comprennent mieux leur personnage à chaque instant, tenter de briser le mur. C'est-à-dire, non, tu ne joues pas la comtesse, tu ne joues pas le comte, c'est toi. Montre-moi ce que tu es, toi. Ça, c'est la façon où je peux effectivement mettre mon sceau, parce que ça remplira, j'espère, aussi profondément que possible ce que Mozart aurait apprécié. Vous savez, Beaumarchais a dit quelque chose, il a vu l'opéra, et il a dit
«
Je n'ai qu'une seule critique, il faudrait que ce soit plus chaud. »
Donc, Nancy de Figaro in the Fox Newsroom.
Je ne vais pas mettre les noces de Figaro sur le plateau du 20h, par exemple. Non. Moi, mon boulot, c'est de mettre l'émotion. Mais l'émotion est là, elle est dedans. Simplement, je dois travailler aussi fort, aussi dur que possible pour que les chanteurs soient eux-mêmes sur scène.
Et
ça, c'est tout le moteur pour tenter d'atteindre cette notion de beauté. Parce que dans la beauté, il y a aussi la reconnaissance de nos faiblesses, de nos échecs.
L'art,
c'est très souvent, la plupart du temps en fait, ce qui ne va pas avec nous, nos faiblesses, nos échecs, nos fragilités. Et dans la comédie, on trouve ça drôle. Dans la tragédie, on en reconnaît la vérité et que quelque chose n'allait pas du tout.
It's our way of coping.
Mais c'est notre façon de nous mesurer à cela.
Dans tous vos films, James Gray, il est question d'identité. On n'est jamais celui ou celle qu'on croit, ni en son fort intérieur, ni dans le regard des autres. Et ça, vraiment, c'est un cheminement psychologique que vous nous faites parcourir grâce à votre art cinématographique. Et finalement, dans cet opéra, Les Noces, il est question aussi de ça. Qui est-on pour soi-même et qui est-on dans le regard des autres?
Also, what is clear in the work, I would
Mais ce
think,
qui est clair dans cette œuvre, je dirais,
is that a lot of who we think we are,
celui que l'on croit être,
is shaped by forces wildly
est formé
out of our control.
Par des forces qui sont totalement en dehors de notre contrôle, ou en grande partie en dehors de notre contrôle.
Forces,
les forces idéologiques,
forces,
forces économiques, les forces de l'histoire.
Go on to shape who we are and our position.
C'est ce qui forme ce que nous sommes, ce que nous faisons et qui dicte beaucoup de notre comportement.
And so much of what we do and
et
say
tellement de choses que nous faisons, que nous disons, que nous ressentons,
is really only an attempt to
c'est
make
une
up
tentative
for what we perceive that we lack.
De remplir le vide que nous ressentons, ce que nous manquons.
You raise
Mais cette question que vous posez sur l'identité,
it seems to me this is at the core of
il me semble qu'elle est au cœur
all works of narrative art.
De toutes les œuvres des arts narratifs, peut-être même plus que ça. Peut-être pas seulement les arts de la narration, mais la musique.
Stanislavski
a dit que le chemin le plus direct vers l'âme humaine, c'est la musique. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, quand il dit ça? Ça signifie pas qu'on joue un petit morceau de musique et puis quelqu'un va tomber amoureux de vous. Bon, ça peut arriver aussi, non. Ce qui veut dire, c'est que d'une certaine manière, ce que nous sommes, qui nous sommes, la façon dont nous le sentons et comment on réagit à ces émotions est imprévisible à l'infini. Et il faut tenter de trouver une réponse à cela d'une manière qui ne soit pas seulement verbale.
Donc,
tout l'art, je pense, est une question sur la recherche d'identité, de notre identité. Je suppose que
the endeavor of the artist, if
c'est
I may
la tâche de l'artiste, si je peux m'appeler moi-même artiste,
to pursue the most
de poursuivre
personal,
la quête la plus personnelle, la plus dévouée, dédiée.
Debate about who we are in the
débat
world and
sur
why.
Qui nous sommes au monde et pourquoi.
And we shouldn't have the answer. If we have the answer, it's bad.
Et on ne devrait pas avoir
it's
la réponse parce que si on a la réponse, ça n'irait pas du tout. Notre boulot, c'est simplement de poser la question.
Dernière question, James Gray. Après l'infini que choisit votre personnage principal de votre dernier film, Ad Astra, où allez-vous nous emmener?
Well, I spent a lot of time.
J'ai passé beaucoup de temps
in the jungle on the movie
dans
before that.
La jungle du film avant ça.
I was in 1921.
C'était en 1921.
Now I went to space.
Maintenant, je suis allé dans l'espace. Là, maintenant, il est temps, je pense, de rentrer à la maison.
Go to New York from 1980 or something. You know,
d'aller dans le New York des années 80, peut-être.
Do the deep dive on something very personal.
Plonger profonde sur quelque chose de très personnel.
Like a memoir,
comme des mémoires.
I was very moved by,
j'étais très ému par Amarcord, la dernière fois que je l'ai vu. C'est un film que j'ai toujours aimé, mais je pense que ça a plus de sens pour moi, parce que j'ai désormais un président qui me fait penser à Mussolini.
Et run-ins with the Trump, so
j'avais
I'm
quelques
run-ins,
et donc j'espère pouvoir explorer cela un peu.
Ben, je vous propose d'écouter Federico Fellini à propos de la mise en scène. C'est une archive INA du 16 août 1974.
Je ne sais pas, mais c'est étrange. Je n'aurais jamais pensé avoir assez d'autorité pour imposer mes désirs à une belle actrice, à une belle femme. Je n'aurais jamais pensé être capable de commander avec tant de précision, de pouvoir prendre autant de décisions. 20, 30, 40 décisions par jour. Je pensais que ce rythme si total, si tourbillonnant, m'était complètement étranger. Que ma vie, mon mode d'expression, eussent besoin de cadences beaucoup plus estompées, plus lentes, plus douces. Et au contraire, j'ai fait le metteur en scène, sans même avoir été assistant. D'un seul coup, je me suis trouvé devant un opérateur qui me demandait quel objectif il devait mettre sur la caméra. Un directeur de la lumière qui me demandait s'il devait allumer un 5000 ou un 10000. Devant des acteurs qui attendaient de moi la béquée, des directives. À l'improviste, je me suis découvert faisant ce que je n'aurais jamais rêvé de faire. À crier, à faire la vedette, le capitaine, le condottiere et le SS, le policier, le saltimbanque.
Motore. Motore. On sait que vous êtes très cinéphile, James Gray. Est-ce que Visconti continue à vous passionner? Est-ce que votre imaginaire a besoin d'être alimenté par la vision d'autres films? Vous dites que vous allez revenir à des mémoires familiales, mais finalement, n'avez-vous pas fait que cela? Quand on pense au premier film, Little Odessa, quand on pense à The Yards, quand on pense à La Nuit vous appartient, quand on pense à tous vos autres films où vous parlez indirectement de votre mère, de votre frère, de votre père, de votre milieu d'origine.
That's true. By the way, I still do love Visconti.
J'aime toujours Visconti.
I have to say, if I had to criticize my own
je dois
films,
dire, si je devais critiquer mes propres films,
nauseating sentence, but,
ce qui est une phrase qui donne la nausée quelque peu,
I would say that the thing I would
mais je dirais que ce
most
que je critiquerais le plus,
there should not be
c'est que
the mistake to believe that
autobiographical
and personal are the same thing.
En pensant que l'autobiographie et les choses personnelles sont une seule et même chose. Oui, c'est vrai, ces films sont très autobiographiques. Ils tentent d'être aussi très personnels. Mais je ne pense pas que j'en sois arrivé là où je voulais être. On sent qu'on est capable de rentrer dans l'esprit de quelqu'un d'autre pendant 2 heures, de rentrer dans les rêves de quelqu'un d'autre pendant 2 heures.
I haven't achieved that.
J'ai pas réussi ça.
And that to me is the ultimate
pour
goal.
Moi, c'est le but ultime.
So you can repeat and keep
donc,
repeating
on
the
peut
same
répéter,
facts.
Répéter les mêmes faits.
How different really is Yves Vitelloni from Amarcord?
Yves Vitelloni et Amarcord, quelle différence en termes de narration? Pas beaucoup de choses en fait.
He's different at
mais
50 than he was
il est différent à 50 ans qu'il ne l'était à 32 ans, quel que soit l'âge où il a fait ce film précédent. Et je pense qu'il avait différentes choses à nous montrer en ce qui concerne ses impressions intimes. Et j'espère d'essayer de briser cette règle du mieux que je peux. Mon premier film, vous avez raison, c'est très autobiographique et qui tentait d'être personnel. Mais je me suis caché derrière le genre. Je me suis caché derrière une certaine rudesse du style. Et j'aimerais essayer de ne plus me cacher.
Mais vous avez réussi, James Gray, à nous faire percevoir au plus profond de nous-mêmes la détresse amoureuse. Vous avez réussi à nous faire comprendre qu'on peut avoir envie de se suicider par chagrin d'amour. Vous avez réussi à nous faire comprendre que le mal et le bien n'étaient pas aussi identifiables que cela. Vous nous avez permis de croire qu'une vie peut se métamorphoser et que de bad boy, on peut devenir policier. Vous avez réussi, bref, à explorer beaucoup de cheminements à la fois conscients et inconscients qui rejoignent une réalité politique et économique. C'est déjà pas mal.
Très flatté. Je suis très heureux que vous retiriez ça de mon œuvre. Vous savez, on met des trucs là-dedans et puis on espère que certaines personnes le trouvent. Et là, me voici à Paris et vous l'avez trouvé. Donc c'est super.
D'une certaine manière,
la lutte d'un réalisateur, c'est de décider à quel point on fait que les choses soient évidentes. Si c'est trop évident, ça ne va pas. Si ce n'est pas assez évident, on ne le trouve pas. J'ai essayé, du mieux que j'ai pu, de voir quelle est notre position au monde. Je
ne
parle pas des républicains, des démocrates aux États-Unis,
le courant,
l'angoisse de l'histoire,
et comme
vous l'avez dit, l'amour,
qui
est un ingrédient important, si ce n'est essentiel dans toute œuvre d'art. Tout ça, c'est conscient. J'ai tenté de le mettre dans mon travail, dans ce que j'ai fait, produit. L'idée de véritablement du bon et du mauvais, c'est une grande préoccupation. Comment passer du bon, enfin du mauvais au bon, c'est très important. À mon niveau, le mal absolu, c'est Adolf Hitler. Je ne réussirai pas à humaniser cet être dans mon esprit. C'est un méchant pour l'art. C'est quasiment un méchant. Si on le mettait dans un film, il serait incroyable, quoi. Moi, ce que j'essaie, c'est de trouver l'humanité au sein de qui que ce soit. Et de cette façon, l'art n'est pas une réalité. Elle nous montre mieux que nous ne sommes.
Merci infiniment, James Gray, à la fois dans ce nouveau rôle de metteur en scène et de Mozart dans Les Noces de Figaro, actuellement à Paris. Et j'ajoute que tous vos films sont disponibles. Et c'est un enchantement que de les voir et que de les revoir. Merci beaucoup.
Mon amour, je dois courir, mais je ne sais qui ni quoi. Je cours après.
Odessa. Odyssée.
Je sais qu'il y a des choses à fuir, il y a 100 000 regards à éviter.
Odessa. Odyssée.
Je reviendrai conquérir. Lorsqu'ici tout sera droit et redressé.
Odessa. Odyssée.
Je pars à demi-sourire, mais crois-moi, je ne fais vraiment pas exprès.
Odessa.
Tu dois dire disparaître. Promets-moi de ne rien effacer. Ça, on me disait.
Et c'est avec Kéréane que nous allons nous quitter ce soir, non sans avoir remercié Loïc Frapsos qui était à la technique ce soir, Élodie Royer, Louise Douillet et Anne-Sophie Dazard, Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Et je rappelle que James Gray est metteur en scène de cet opéra de Mozart, Les Noces de Figaro, avec Jérémy Rohrer à la direction d'orchestre. Ça commence le 26 novembre et c'est jusqu'au 7 décembre. Et merci à Michel Zlotowski pour sa magnifique traduction simultanée. Et comme chaque soir, vous allez retrouver l'ami Mishka Sayas pour son Very Good Trip numéro 2.